bienvenue dans le monde de la beauté avec les podcasts. Mais qu'est-ce que la beauté ? C'est une nouvelle aptitude à vous donner du plaisir, disait Stendhal. Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans le 6e podcast beauté avec Capucine du blog Babillage. Je ne pouvais pas faire un podcast beauté sans inviter Capucine. Vous allez vite comprendre pourquoi. Capucine a créé en 2007 le blog Babillage. Et puis Babillage a bien grandi et s'est transformé en véritable blog beauté. Toutes les beauty addicts le connaissent. J'allais moi-même sur son blog il y a plus de 8 ans. Babillage parle de cosmétiques surtout, mais aussi de tendances et tout ce qui lui passe par la tête et tout ce qui touche au domaine du féminin. Elle fait des tutos, des tests produits. Et ce que j'ai toujours apprécié chez Capucine, c'est qu'elle dit tout ce qu'elle pense. C'est un blog sincère. D'ailleurs, si vous la suivez sur Instagram, on le remarque aussi dans ses Insta Stories. Et d'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard. Capucine a la trentaine, elle aime la Normandie comme moi, et elle habite Paris depuis de nombreuses années. Elle est à la tête de sa société qu'elle gère d'une main de maître. Bonsoir, Capucine.
Bonsoir, Katia. Belle introduction, merci.
Ça te plaît ?
Oui, ça me touche, merci.
Nous nous connaissons depuis de nombreuses années et je crois même qu'à l'époque, je travaillais chez Alès Group et on s'est vu à une soirée Caribou.
Exactement, hein, exactement.
En 2012.
À une soirée phyto.
Phyto, ouais. En 2012, donc ça date un petit peu finalement, ça fait 5 ans, ouais. 5 ans, 6 ans qu'on se connaît.
Et oui.
Le temps passe vite. Bon, ça va ?
Ben ça va. Un petit peu stressée.
Non, faut pas. En plus, on est chez toi, on est bien.
Oui, c'est vrai. Il y a le chat pas loin.
Voilà.
On est très bien. Il y a un joli sapin de Noël.
Voilà.
J'ai un pull de Noël.
Oui, elle a un beau pull de Noël, mais on le verra sur la photo.
Super, merci.
Capucine, peux-tu nous dire qui tu es en quelques mots ?
Pour la plupart des gens, je me définis comme une blogueuse beauté. Mais c'est un peu triste parce que je me résume pas qu'à ça. Donc je suis une jeune femme, on est encore jeune quand on a presque 30 ans j'imagine, hein.
Oui.
Donc je suis une jeune femme qui va avoir 30 ans dans 2 semaines, je flippe un peu, je vis à Paris depuis 12 ans et effectivement je suis spécialiste beauté, donc je fais parfois du conseil pour des marques, j'interviens dans des séminaires, j'interviens dans des conférences et j'ai aussi mon blog beauté qui est un webzine qui est suivi par plus de 300 000 lectrices tous les mois.
Quand même.
Quand même, je sais pas, je m'en rends pas compte parce que je crois qu'elles rentrent pas toutes dans mon salon, mais j'arrive pas à visualiser et c'est ce qui m'aide à faire la chose.
Ouais, c'est ce qu'il existe depuis.
Depuis 10 ans. Ouais, j'avais 19 ans quand j'ai créé ça.
Ah, c'est fou. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu avais 19 ans ?
Alors ça a commencé bien avant. Quand j'étais toute petite, je voulais être princesse. Et puis après, j'ai compris que ça, c'était que dans les films Disney. Ensuite, j'ai voulu être institutrice parce que ma grand-mère était institutrice et j'ai ma grand-mère comme modèle. Ensuite, j'ai voulu être psychologue dans des prisons.
Ah oui ?
Oui.
Et comment ça se fait ?
Je pense que les mots des autres m'intéressaient énormément. Mais ensuite, j'ai compris que c'était quand même dur, ouais, comme métier. Donc, je me suis tournée vers peut-être mes 10-12 ans. Je voulais être journaliste. Donc, j'ai entre autres fait des études de journalisme. Et ça me sert aujourd'hui parce que via Babillage, il y a quand même une grosse partie d'écriture. Même si l'écriture est différente, il y a les bases.
Et du coup, tu as monté ton blog très vite. Et à quel moment tu as vu que ça allait changer ta vie ?
Alors la première fois où ça a changé ma vie, en fait ça a changé ma vie plusieurs fois.
Ouais.
Je suis comme un chat moi, j'ai plusieurs vies.
Exactement.
La première fois, j'étais étudiante et en fait une régie publicitaire m'a contactée, mon blog avait quelques mois et donc j'ai pu mettre de la pub sur mon blog et je me souviendrai toujours, j'ai dit à mon père, papa au lieu d'aller faire un job étudiant, eh ben, je vais vivre de mon blog en parallèle de mes études, ça va me permettre de payer mes études quoi.
Voilà. Et en plus t'étais une des seules, ouais, qui avait un blog beauté, non, à
exactement
l'époque. Il y en
exactement
avait pas,
non pas du tout et après les autres fois où ça a changé ma vie, ça a été beaucoup plus tard. C'est marrant, j'étais appelée au même moment par LVMH et L'Oréal pour travailler chez eux.
D'accord.
Et finalement, après des mois, des semaines d'entretien, parce que les processus de recrutement sont très longs dans ces grands groupes, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour rejoindre des aussi beaux groupes là, maintenant, tout de suite, et qu'il fallait que j'aille au bout de Babillage. Parce que Babillage m'accompagnait déjà depuis plusieurs années et que je serais frustrée si j'allais pas au bout de ça. Donc, du coup, bah, j'ai tout quitté. J'étais salariée. Je travaillais via une agence. J'étais dédiée à Givenchy. Donc, j'avais déjà un pied chez LVMH d'une certaine manière. J'ai tout abandonné. Et depuis plus de 3 ans, je vis de babillage.
D'accord.
Et là, ça a changé ma vie parce que maintenant, je suis indépendante. Je ne suis plus salariée. Et les problématiques sont différentes.
Ouais. Quand tu as un blog, j'imagine que tes journées ne sont jamais les mêmes.
Non.
Mais est-ce que tu as une journée type ou comment ça se passe ?
On va dire que j'ai deux journées types. La première, c'est j'aime caler plein de rendez-vous la même journée. Comme ça, je crapahute dans Paris. Et puis une fois que je rentre chez moi, je vais me coucher, c'est terminé. Mais malheureusement, on ne peut pas programmer la météo. Donc il y a des jours, c'est sous la pluie.
Comme aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Mais j'ai des super astuces anti-frise aussi, donc ça va. Et après, la deuxième journée type, c'est celle où je décide de rester dans mon bureau qui est dans mon appartement. Mais c'est une pièce dédiée toute la journée. Et où là, bah, j'ai une to-do list. Selon les journées, ça change. Mais il y a de la production de contenu, réponse aux commentaires, la partie compta, la partie commercialisation, travailler avec des marques. Donc ensuite, je répartis ma journée en fonction des projets.
Finalement, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans ton métier aujourd'hui ?
Alors, indépendamment du fait qu'être entrepreneur et indépendant en France, c'est compliqué. La vraie chose difficile inhérente à mon travail, c'est le paradoxe entre la visibilité qu'on peut avoir, le fait d'être suivi par beaucoup de monde, et l'extrême solitude. Parce qu'en réalité, on fait des stories, on est lu. Ça peut être très grisant, en fait, de se dire « Waouh, il y a tant de vues sur ce truc ». Mais en fait, on est toute seule derrière notre écran.
Ouais.
Et ça, c'est dur, en fait. C'est dur de ne pas pouvoir prendre conseil auprès de quelqu'un. Quand on se prend des sales commentaires, voilà.
On en parlera un petit peu plus tard.
De les digérer toute seule.
Ouais.
Je pense que c'est ça le plus dur de mon travail.
Mmh. As-tu des anecdotes de moments de ta vie à partager depuis que tu as ton blog, en fait ? Qui t'ont marqué, des moments qui t'ont marqué ?
Les moments qui me marquent le plus, c'est quand je rencontre mes lectrices. Mmh. Parce que justement, il y a cette barrière de l'écran qui fait qu'on ne sait pas qui nous lit. Et les moments où je rencontre mes lectrices, que ça soit par hasard ou parce que j'ai organisé un événement, c'est toujours riche en émotions. C'est toujours marrant de se rendre compte qu'en fait, on se ressemble énormément, qu'on est un petit peu pareil, qu'au final, on est des nanas qui se maquillent pas beaucoup, qui font hyper attention au skincare, qu'on est toutes plutôt bienveillantes. Enfin, on se retrouve autour des mêmes valeurs et des mêmes goûts, donc ça, c'est cool. Et après, le moment qui m'a le plus marquée, c'était il y a plusieurs années, avec une marque qui vit des difficultés d'ailleurs en ce moment sur le marché de la cosmétique en France, mais c'est Bare Minerals.
Ouais.
J'avais organisé avec eux un événement où j'avais invité mes lectrices et j'ai maquillé une fille.
Une fille ?
Ouais, je l'ai totalement démaquillée, je l'ai maquillée sous le fond de teint. Sa peau était très abîmée, elle ne voulait pas se montrer, elle en pleurait, enfin, c'était un moment très dur. Et en fait, je lui ai appliqué le fond de teint, je lui ai donné des petites astuces. Elle a même accepté de porter un rouge à lèvres rouge alors qu'elle avait des soucis de peau. Et elle m'a dit, ça a changé ma vie. Maintenant, je m'assume, je m'aime. Et pour moi, c'était le plus beau moment.
Et qu'est-ce que tu préfères dans ce métier ?
Bon, il y a l'électrice, bien évidemment. Ah. Parce que sans elle, ce serait compliqué, je ne serais pas grand-chose. Mais après, ce que j'aime dans ce métier, et surtout dans le fait de travailler à mon compte, c'est que ça m'a permis de découvrir des facettes de ma personnalité que je ne soupçonnais pas, et de me dépasser sur des choses qui ne me seraient jamais venues à l'esprit. C'est-à-dire que quand j'étais salariée, par exemple, dans un entretien d'embauche, que venait le moment de parler de la somme que tu voulais comme salaire, tu sais, je me faisais toute petite dans mon siège. Je me disais, ah non, on va devoir parler d'argent, ça va pas, je suis pas à l'aise.
Ouais.
Et en fait, aujourd'hui, par exemple, la partie commerciale, c'est quelque chose, alors c'est très chronophage, mais c'est quelque chose que j'aime et dans lequel je suis à l'aise, je me sens bien, alors que j'aurais jamais pensé l'être avant. Donc, ce que j'aime bien dans mon métier, c'est que je découvre des choses différentes tous les jours.
Et t'apprends tout le temps.
Ouais, tout le temps.
Et donc, on a dit que tu avais un blog depuis de très nombreuses années.
Ouais.
Ensuite, Instagram est arrivé.
Oh là là.
Tu es très... tu es très Instagram.
Oui.
Tu fais beaucoup de photos, beaucoup d'Insta stories. Je te suis au quotidien. Et qu'est-ce que ça t'a apporté Instagram finalement par rapport à ton blog? Est-ce que ça a changé quelque chose ou c'est un plus ou
Alors en fait c'est marrant parce que quand j'en parle avec d'autres blogueuses, surtout des blogueuses mode, en fait elles ont vu un vrai effet Instagram dans le sens où elles ont perdu de l'audience sur leur blog au profit d'Instagram parce qu'elles ont toujours fait de l'image.
Oui, voilà, c'est des vêtements.
Exactement. Moi, j'ai toujours donné du conseil, j'ai toujours beaucoup écrit, j'ai toujours été dans le didactique. Donc, j'ai pas perdu d'audience, au contraire, ça continue d'être tout à fait OK. Mais je dirais que sur Instagram, c'est pas forcément le cœur de ma communauté, c'est d'autres personnes qui me découvrent autrement, qui aiment les photos, qui découvrent peut-être un petit peu plus ma personnalité ou les coulisses.
Plus sur toi,
Instagram. C'est plus moi, même si j'ai de gros freins, je montre pas ma famille, je montre pas mon conjoint, je montre pas grand-chose. Mais on comprend un petit peu plus qui je suis à travers Instagram.
Ouais. Alors, c'est le moment, Capucine, de la chanson.
Ouais.
Je sais que tu écoutes beaucoup de chansons. Et surtout, tu es fan de quelqu'un qu'on connaît bien.
Céline
Dion.
Mais oui.
Et tu as choisi, donc, Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion.
Un grand classique.
Un grand classique, mais c'est vrai que c'est indémodable.
Ouais. Figure-toi que c'était ma babysitter qui écoutait ça quand c'est sorti. J'étais petite, je ne comprenais pas le sens.
Ouais.
Mais je la connaissais par cœur. Et donc, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et comme Obélix, tu vois. Et depuis, je suis fan. Je vais la voir en concert.
Ouais, je sais bien.
J'ai pleuré quand René est mort. Non, mais il y a un vrai problème avec Céline.
Mais on va l'écouter.
Ah, merci.
Avant que tu t'en parles trop.
Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout s'appellasse, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes dents. D'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer. Je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres. Oh, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche.
Donc tu me disais, tu m'as entendu avec ta babysitter.
Oui.
Et t'es devenue fan depuis.
Ben ouais, je suis devenue fan. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a une période où elle était très ringarde, Céline Dion.
C'est vrai, il y a 15 ans.
Ouais, mais même il y a encore 5-6 ans, elle était ringue. Et...
Canal Plus ne l'a pas aidée. Hein.
Non. Mais moi, elle était toujours là, au fond de mon cœur. Mais j'ai toujours assumé. Et maintenant qu'elle est tendance, il y a plein de gens qui se révèlent être fans de Céline.
Ouais.
Mais ils ont raison.
Donc, après avoir parlé de Céline Dion, tu es la blogueuse beauté française. Et moi, j'ai envie de savoir comment tu prends soin de toi. Est-ce que tu as vraiment une routine beauté?
Oui, j'en ai une, évidemment, mais elle va te décevoir. Non, en fait, les choses sont très simples. Pour moi, c'est important de se démaquiller, de se laver le visage tous les jours, même si je ne suis pas maquillée, bien évidemment. Surtout quand on vit à Paris et qu'on traîne dans la pollution. Et un autre truc qui est hyper important pour moi, c'est l'hydratation. Surtout que, me concernant, j'ai la peau sèche et déshydratée. Donc, je n'ai pas le choix.
Ouais.
Donc, c'est vraiment les deux trucs que je fais. Et un autre type de produit que j'aime beaucoup, ce sont les lotions astringentes. Je suis fan de celles de chez Biologique Recherche. parce que je trouve que ça m'évite du coup de faire des gommages qui eux sont beaucoup trop abrasifs pour ma peau.
D'accord, je connaissais pas.
Eh bien écoute, à tester.
À tester. Et tout à l'heure tu disais que tu te maquillais peu.
Ouais.
Mais quel rôle a le maquillage dans ta vie ?
Alors c'est marrant parce que il y a eu plusieurs rôles à différents moments de ma vie. Il faut savoir que moi, ma maman voulait pas que je me maquille. Donc quand j'étais ado, ma période lycée,
au collège, lycée.
Non, j'avais pas le droit. Mm-hmm. Mais en même temps, ça m'intéressait pas tant que ça. J'ai dû lui piquer son mascara, un Lancôme d'ailleurs. Mais non, je faisais très bébé en plus, ouais. Ça m'intéressait pas. En revanche, quand j'ai commencé à vivre seule après mon bac, je suis arrivée à Paris à 17 ans. Là, j'ai commencé à avoir de l'acné, des trucs pas très sympas, et donc j'ai eu envie de camoufler ça.
Assez tard, finalement.
Ouais, très tard. Et j'ai eu envie de camoufler tout ça. Et donc, je suis allée chez Yves Rocher, j'ai acheté la gamme Luminelle, j'ai acheté aussi le Great Lash de Maybelline en mascara, Je me suis constituée une routine beauté, mais franchement, c'était pas ça du tout. C'était moche, je savais pas l'appliquer, je savais pas choisir la bonne teinte.
Non.
Je faisais pas poisson pané, tu vois, mais c'était pas très joli. Et ensuite, je me suis dit, bon, je vais craquer mon slip, je vais m'acheter un super fond de teint. Et donc, j'étais allée chez Sephora, le Sephora en face de chez moi, à Mouton-du-Vernay, dans le 14e, je me souviens. Et j'ai acheté le Matte Lumière de Chanel. Ça a été ma révélation, parce que du coup, c'était comme un... C'est pas beau de dire ça sur un fond de teint, mais c'était comme un masque. Ça me permettait de sortir dans la rue sans voir ces trucs immondes là, qui m'ont complexé énormément, parce que ça a duré longtemps, jusqu'à mes 21-22 ans. Et ensuite, une fois que j'ai réglé mes problèmes de peau, là, j'ai eu un rapport totalement différent au maquillage. C'était plus un masque, c'était plus quelque chose de fun, avec lequel je pouvais jouer au gré de mes humeurs. Donc là, tu me vois, je suis très maquillée, parce que...
Pourtant, pas beaucoup, hein.
Non, mais avant que tu arrives, figure-toi, je faisais des photos pour mon Instagram avec le parfum Si Armani. Donc je suis apprêtée, je suis coiffée, tout ça. Mais sinon, j'ai aucun complexe à me promener démaquillée. Je me montre démaquillée à mes lectrices toute la journée. Je pense que c'est parce que j'ai appris à aimer mon reflet dans le miroir sans maquillage. Ça ne me gêne pas du tout. Je m'apprécie sans maquillage. Et je pense aussi que c'est parce que j'ai la chance d'avoir un conjoint qui m'aime sans maquillage et qui me trouve même plus jolie
très
sans
important.
Maquillage. Et ça, c'est vrai que ça change tout.
C'est clair. Et tu as un rouge à lèvres en ce moment que tu utilises plus que d'autres ou,
Tu verrais dans le bureau et dans la salle de bain, il y en a énormément. Mais c'est marrant parce que moi j'aime beaucoup les teintes bois de rose. Je trouve ça je trouve que ça rehausse la teinte des lèvres sans trop en faire. J'aime aussi bien les effets mat que les effets satinés, j'aime les deux. Mais depuis qu'on s'est vu il y a quelques semaines, tu m'as offert un joli rouge à lèvres Armani rouge
mat.
Ouais, rouge mat, un vrai rouge de femme,
rouge.
Sais, voilà.
Le rouge.
Exactement. Et je le porte. Je le porte et il fait son petit effet. Je le trouve très confortable, très agréable. Et c'est très rare que je porte du vrai rouge à lèvres.
Quoi. Mais un rouge, ça se remarque quand même dans la rue.
Exactement.
Je sais pas si tu vois la différence quand tu mets un rouge à lèvres rouge.
Les gens te regardent.
Oui, beaucoup plus que quand tu as un marron ou un beige.
Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Ou beaucoup plus que quand tu as juste un charbonneux.
Oui, exactement.
Le rouge.
Juste le rouge.
Ça, ouais. Alors en plus, t'imagines, moi je suis rousse. Alors les jours où il y a du soleil, je suis très rousse au soleil. Lèvres rouges, c'est parfait.
Ça va être très beau.
Oui, oui.
Et est-ce qu'il y a une marque de maquillage dont tu ne peux plus te passer, que tu utilises depuis longtemps
Une marque de maquillage.
Ou de soins.
Bon, tu l'auras compris, j'aime beaucoup Biologique Recherche.
Oui.
Après, je suis une inconditionnelle du toucher éclat chez Saint-Laurent.
Ouais. Comme pas mal de filles.
Ouais. Je bénis chaque jour Thierry de Gunsbourg qui a créé ce toucher éclat, tu vois. J'ai d'ailleurs eu la chance de bosser avec elle quand j'avais créé mon propre vernis à ongles pour The Beautiste il y a quelques années. Après, sinon, dans les découvertes récentes, c'est marrant, j'écris un article sur mes produits préférés de l'année pour Babillage. Il y a évidemment ce fameux petit cushion Armani, My Armani To Go, qui est vraiment, je pense, ma révélation fond de teint de l'année 2017. C'est tout en transparent, c'est subtil, c'est joli, c'est lumineux, mais pas non plus trop glowy, c'est un petit peu mat en même temps, mais pas non plus mat comme pour des shootings photos. Ouais. Et c'est parfait.
Ouais, très bien, ça me fait plaisir. On va parler des indie brands beauté qui émergent de plus en plus sur les plateformes sociales en ce moment.
Pour expliquer une indie brand, c'est un terme générique qui pourrait décrire n'importe quelle compagnie indépendante représentée par un nouveau style d'entrepreneuriat. Et ils n'ont surtout pas peur de réécrire les règles. En fait, ces entrepreneurs s'intéressent aux changements dans la technologie, dans la fabrication et même dans le comportement humain. Et en fait, ils franchissent les obstacles qui sont parfois beaucoup plus difficiles dans des entreprises plus traditionnelles où là, ces entreprises traditionnelles sont soumises à trop de validation ou encore trop de politique. Une indie brand que je regarde de très près est la marque Glossier. Elle a été fondée par une influenceuse qui s'appelle Emily Vess. Elle a été très à l'écoute de ses followers et à l'époque, la fondatrice de Glossier n'a pas dit aux femmes ce qu'elles devaient porter ou mettre. Elle leur a complètement demandé « qu'est-ce que vous voulez ?» ou « qu'est-ce que vous recherchez dans un produit ?» et ça, elle l'a posté sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, un de ses premiers posts était « quel est le démaquillant de vos rêves ?» 400 commentaires et un an plus tard, le démaquillant a été commercialisé par cette influenceuse. En fait, les produits n'ont rien de révolutionnaire, mais la cliente y croit, elle y participe et le prix est abordable. C'est un peu leur marque à elle aussi.
Donc, que penses-tu de ce succès des indie brands et surtout de la marque Glossier ?
Alors, en fait, c'est marrant parce que... Alors, toi, tu dis Glossier, moi, je dis Glossier.
Oui, en fait, ça dépend
des... Parce que c'est l'Amérique. Mais c'est marrant parce que cette marque ne m'a jamais touchée, et ne m'a jamais parlé... Mmh. Ne m'a jamais rendue hystérique.
Pourtant, elle rend hystérique.
Ouais, mais ça ne me parle pas. Mm-hmm. Y a des filles qui sont notamment dingues, des baumes à lèvres, là.
Oui.
Glossier. Mm-hmm. Ah bah tiens, mon chat vient te saluer. Voilà,
bonjour. Comment ça va? Je te vois beaucoup sur Instagram.
Hein. Bah oui. Je ne sais pas ce qu'il pense de Glossier. Mais
je crois qu'il a envie de s'asseoir. Ah bah voilà.
Ah voilà, il a envie de venir parler avec moi.
Mais non, bien.
Ouais, mais Glossier, clairement... Moi, ça ne me touche pas. Le baume à lèvres, quand on regarde la compo, c'est plus ou moins ce qu'on peut trouver chez un Eucérine, chez nous, où on va dire, tu mets de la bonne vaseline, c'est la même chose, quoi. C'est quasiment la même chose. Donc, je trouve que c'est quand même... Je salue l'effort parce que c'est un art d'arriver à rendre quelque chose de tendance alors qu'on n'invente rien, on ne crée rien.
Elle a juste demandé finalement à ses fans qu'est-ce qu'elle voulait comme produit.
En fait, c'est basé sur la confiance que ses followers lui portaient, le crédit qu'elle avait et son talent marketing, au final. Mais en réalité, moi, cette marque-là...
Tu l'utilises pas, quoi.
Ah non. Non. Et c'est marrant, la dernière fois que j'étais à New York, j'étais en face du siège de Glossier.
Ouais.
J'aurais pu les contacter pour aller dans leur showroom parce que ça se fait facilement. Mm-hmm. Je ne l'ai pas fait. J'ai préféré aller me rouler chez Sephora et m'acheter plein de produits. Mais non, ça ne me parle pas.
Ouais. Non, je voulais te poser la question parce qu'effectivement, je vois beaucoup d'influenceurs en parler dans mes contacts. Et du coup, je voulais un petit peu plus comprendre le...
Mais en fait, après, je pense qu'il y a aussi ce truc par rapport aux influenceurs français qui en parlent. Mmh. On aime rêver de ce qu'on n'a pas et ce qui n'est pas disponible en France. C'est tendance, c'est créé par une nana... Du game, du sérail web. Effectivement, c'est une très belle aventure et pour le coup, je salue l'aventure entrepreneuriale et la réussite. Mais quand on regarde les compos, non, c'est pas fou.
On va rentrer un petit peu plus dans l'intimité.
Oula.
En tant que blogueuse beauté, et parce qu'on se connaît bien, parce que je t'aurais peut-être pas posé la question si on se connaissait pas si bien. Est-ce que tu as eu un pire faux pas beauté ?
Bah évidemment.
Comme tout le monde.
Mon pire faux pas beauté, c'était... J'étais adolescente.
Mais c'est souvent l'adolescence.
Mais bien sûr. Et puis tu sais, tu fais le truc dans le dos de tes parents parce que tu n'oses pas leur dire.
T'es fière.
Non, moi, j'étais pas fière parce que c'était franchement très gênant. En fait, il se trouve que j'ai une pilosité fort sympathique. J'avais des sourcils plutôt épais. Au lieu de dire à ma mère... maman, voilà, j'aimerais bien me les épiler ou un petit peu nettoyer, machin. Mmh. J'ai pris le rasoir de mon père et j'ai voulu élaguer moi-même. Et je me suis retrouvée avec une espèce de ligne en zigzag. Alors, les zigzags sont tendance aujourd'hui sur Instagram.
Hein. Ouais, ouais.
Mais disons que c'était très gênant.
En plus, ça dure longtemps, du coup. T'es restée comme ça plusieurs semaines, non?
Je suis restée comme ça toute ma troisième. Gros malaise. Et donc, je ne peux plus regarder les photos de cette époque-là. Parce que...
Ah, il y a des photos.
Oui, mais ça tombe bien, on est dans un podcast. Tu ouais, peux pas
on
les
voit
montrer.
Pas. Malheureusement, voilà. C'est pas une vidéo.
Voilà, donc
mais j'ai... on imagine, j'imagine.
Ouais.
Ça devait pas être Jojo.
Non. Je l'ai jamais dit à mes lectrices. J'espère qu'elles m'aimeront encore après
mais
ça.
Mais oui, tout le monde fait un faux pas. Même les plus grandes stars font des faux pas beauté. Hein.
Tu crois que Céline en fait?
Je suis sûre qu'elle en fait. Faudrait savoir ce qu'elle fait comme faux pas beauté.
On va enquêter.
Céline Dion. Je pense que ça se trouve. Mais on va lui envoyer un petit mail. Hein.
Bah oui, un petit tweet.
Peux-tu me décrire ce que c'est la femme élégante pour toi, une femme élégante, et est-ce que tu as une femme qui t'a marqué par son élégance?
J'arrive pas à être en admiration dans des stars ou tout ça, enfin j'aime leur talent et tout.
Sauf Céline déjà.
Oh, Céline elle est pas élégante. Hein. Sa voix l'est, mais pas. Mais en fait, je suis plutôt touchée et inspirée par des gens de mon entourage. Et je pense que dans la construction de la vision de la beauté, les ancêtres sont importants. Mmh. Moi, c'est ma grand-mère, qui est pour moi élégante. C'est pas quelqu'un qui se maquille beaucoup. Je pense que voilà, ça vient pas de n'importe où, mon truc. Mmh. Mais c'est quelqu'un qui va toujours chez le coiffeur. Toutes les semaines, elle est chez le coiffeur, depuis toujours. Elle se fait une teinture rousse.
Ouais. Ah, voilà. Du coup, c'est pour ça?
Bah, je sais pas, mais il y a un lien. Elle est toujours bien coiffée. Et elle a toujours son rouge à lèvres, un rouge Estée Lauder, ouais. Depuis des années.
Toujours le même.
Toujours le même, que je lui achète de temps en temps quand elle en a plus. Et pour moi, je trouve qu'elle est belle. Elle est aussi belle. Elle était aussi belle à 70 ans qu'aujourd'hui à 88 ans. Ouais, elle porte bien ses rides, elle a une peau toute fine, très jolie, et j'aime bien ça, en fait. Ce que j'aime chez elle, c'est les expressions, la vie. Donc, bon, du coup, vous connaissez pas ma grand-mère, mais je vous jure, c'est quelqu'un
mais
de
non,
très...
Non, mais là, tu nous l'as bien décrit.
De très, ouais. Très élégant. Okay. Et c'est marrant, j'ai ce truc aussi, c'est-à-dire que moi, je m'en fous de pas être maquillée. Mais il faut que je sois coiffée. Mmh. Doups, tu vas t'en aller. Voilà.
Doups, c'est remonté sur la table. Et il ne nous quitte plus.
Voilà. Non, mais il faut que je sois coiffée, ouais. J'ai les cheveux propres. Mmh. Donc non, c'est ma grand-mère, tout
ta
simplement.
Grand-mère. Et penses-tu que la Parisienne a un type de maquillage?
C'est marrant que tu poses cette question, parce que depuis hier, je suis en interview sur le blog US de Clinique.
Mais oui, j'ai vu ça.
Ouais, mmh. Et dans le titre... Ils ont mis French girl, machin.
French parisienne.
Ouais, bon, évidemment, tous les trucs qui font que les gens vont cliquer parce qu'il y a une fascination pour la parisienne, pour la française, spécialement la parisienne. Mais moi, je n'arrive pas à me dire que la parisienne est particulièrement particulière.
Parce qu'on habite Paris.
Ouais, mais... Je pense quand même qu'il y a un truc de la française en général, dans le sens où nous, quand on se maquille, on aime bien qu'on voit notre grain de peau. Au final, le maquillage, le teint très mat, très travaillé, tout ça, c'est plutôt américain. D'ailleurs, c'est plus les jeunes qui portent ça. En France, c'est une minorité, je dirais. Donc non, je pense que c'est plus... effectivement, il y a des différences culturelles dans la vision de la beauté et de l'hygiène en général. On dit toujours que les Françaises sont sales parce qu'on ne se lave pas les cheveux tous les jours comme les Américaines. Mais à l'inverse, on pourrait dire, nous, que les Françaises ont, que les Américaines pardon, ont une obsession de la propreté à se frotter la peau dans tous les sens, à se la décaper. Donc, je ne sais pas. Il y a peut-être un truc de la Française, mais après, c'est clair que le marketing aide à enjoliver ces choses-là.
Et on arrive vers la fin de ce podcast.
C'est vrai déjà.
Déjà, mais en même temps, ça fait bien 20 minutes. Hein.
On parle.
C'est bientôt Noël. Nous sommes le 13 décembre. Est-ce que quand on est blogueuse beauté comme toi, tes amis s'attendent à ce que tu leur offres des super produits de cosmétiques?
Alors, justement, c'est compliqué pour moi parce que c'est marrant, les gens s'imaginent que chez moi, c'est Sephora. Alors, c'est un petit peu le cas dans mon bureau, mais c'est pas non plus... mon bureau fait 10 mètres carrés. Hein. Je pense que les Sephora sont plus grands que ça. Mais du coup, je reçois pas tout. Et puis, si j'ai envie de faire un cadeau, surtout, même si j'ai le truc dans mon bureau, je vais aller l'acheter. Parce que c'est le plaisir d'offrir et c'est la démarche du cadeau, en fait. Et du coup, comme j'ai eu plusieurs fois des remarques du style « Ah, t'as eu ça dans tes placards, voilà. » Je n'offre plus jamais de produits de beauté pour Noël, anniversaire, tout ça. J'en donne maintenant de mes placards le reste du temps, mais j'en offre plus. Et même les bougies, ça me frustre parce que...
Oui, t'adores les bougies.
J'adore les bougies, j'adore en offrir. Et je peux pas le faire, enfin, difficilement, parce que les gens pensent que ça vient de mes placards et que j'ai pas payé le cadeau.
Je comprends.
C'est dommage, hein. Parce que franchement, offrir des cosmétiques, c'est trop bien.
Bah oui, c'est cadeau.
Et je pense, sans vanter, que je serais super... Enfin, super, ouais, une super conseillère pour acheter... des produits de beauté pour mes proches. Je sais exactement ce qui leur va, ce qui leur va pas, mais j'ai pas le droit.
Mais ça, c'est autant avec ta famille que tes amis, enfin, les deux, c'est pareil.
Les deux. C'est compliqué, quoi.
C'est comme ça. Plus de produits de cosmétiques.
Non, mais enfin, après, c'est parce qu'on bosse dans un univers très très paillette. Tu vois, moi. Mon père, besoin de la pétrochimie, il ne va pas m'offrir du polystyrène à Noël. Voilà.
Oui. Tu serais contente?
Non. Voilà. Non, surtout que c'est ma phobie, les billes de polystyrène.
Ouais,
j'en parle dans mes stories parfois. Bon. Quand j'ouvre les colis et qu'il y a des billes de polystyrène...
J'ai peut-être déjà entendu, effectivement. Ouais. Mais je n'avais pas capté que c'était une phobie.
Ah si, c'est comme les
ondes le
sur un tableau. Le bruit et le toucher. Voilà,
heureusement, dans tous les sacs, il n'y en a pas.
Non, heureusement.
Alors, Capucine, il y a toujours une petite citation.
Ouais.
J'ai choisi avec l'actualité une phrase de Jean d'Ormesson. Alors, j'ai trouvé sur Internet, alors je ne suis pas sûre que ce soit une citation qu'on retrouve partout dans ses livres, mais c'est une citation qui était au micro, il était à la radio, d'Yves Calvi sur RTL. Donc, c'était le 26 novembre 2014. Et il disait « Il faut essayer de laisser derrière soi une rumeur qui fait qu'on n'a pas pensé exclusivement à soi, mais aussi aux autres. »
Donc là, tu es en train de me ramener à mes cours de philo en hippocagne, quoi.
C'était pas voulu.
Bah,
c'est Jean d'Ormesson, hein.
Oui, personnage que j'aimais beaucoup. J'aimais le lire et j'aimais ce qu'il incarnait. Du coup, il faut que je te fasse une analyse.
Non, mais est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que, en fait, moi, j'ai pensé à cette phrase. Parce qu'effectivement, tu laisses quand même un blog.
Bah, je laisse une part de moi.
Voilà, une part de toi.
Enfin,
depuis 10 ans.
Et ben, oui, et ça, c'est marrant parce que parfois, j'y pense. Et je me dis, je laisse des trucs comme ça. Je sème mes petits cailloux sur Internet. Il y a des trucs d'il y a 10 ans que j'assume peut-être même plus, en fait, si ça se trouve, mais je ne vais pas dans les archives de mon site. Et en fait, il faut que je l'accepte. Parce que quand je l'ai publié dans une optique particulière, ou quand j'écris pour mes lectrices, pour les aider, pour leur donner des conseils, voilà. Ou quand je dis quelque chose sur une story, c'est parce que je le pense, parce que je le dis avec le cœur, après, les gens le reçoivent comme ils peuvent et comme ils veulent. Ils s'approprient le truc. Ils choisissent de m'apprécier ou de ne pas m'apprécier, de juger mon travail. Mais je pense que ça fait partie de tout l'eau de personnages publics, entre guillemets, quoi. Donc, ouais, je suis plutôt en phase avec ça. Disons qu'il le résume en une phrase et il le dit mieux que moi, quoi.
Ouais. Non, mais je trouve que ça t'allait bien, parce qu'effectivement, vu que tu as ton blog depuis 10 ans, je me suis dit, tu laisses des articles, des écrits.
Tu sais que, enfin, pour parler de choses, ça va te sembler très glauque, mais je me suis déjà demandé. Imagine, je meurs demain, on ne sait jamais ce qui peut m'arriver. Donc là, les gens vont se déconnecter, vous avez complètement malade, celle-là. Mais je me suis déjà demandé si je voulais qu'il reste une trace de moi sur Internet, si je voulais que Babillage reste en ligne, si...
Non, mais c'est normal, je pense, c'est pas la question, ouais.
Quelque part, il y a une lettre avec...
ce que tu veux.
Avec les prédispositions par rapport à ça et les contacts activés. Mais je crois que je voudrais pas qu'il y ait de traces.
Ah ouais ?
Non.
D'accord. Ah, tu veux tout enlever, quoi ?
Ce qui est possible d'enlever. Mmh. Mais j'aimerais bien que Babillage disparaisse avec moi, si je devais disparaître, ouais.
D'accord.
Parce que j'imagine que ce serait trop dur pour ceux qui restent. Mais voilà, donc c'est très triste, mais j'y ai pensé.
Je comprends.
Ouais. Voilà.
Ouais.
Attends, j'ai pas envie sur ma tombe qu'il y ait un iPad avec une vidéo en boucle. Salut les filles. Alors aujourd'hui, tu vois.
Aujourd'hui, tuto.
Voilà. Non, ça paraît bizarre, mais la mort fait partie de la vie. Donc quand tu laisses une empreinte aussi forte sur Internet qui est pas palpable, mais qui est en même temps très réelle, c'est normal que des gens de notre génération se demandent ce qui va advenir de notre présence sur les réseaux.
Ouais. Tout ce qui est Facebook, Instagram, de toute façon, il y a un bouton...
Tu peux choisir le in memoriam ou la suppression définitive. Et moi, j'ai déjà réfléchi à ce cas de figure pour Babillage. Ouais.
Alors, je crois que j'ai oublié une question.
Oh, quelle question ?
Mais c'est pas grave, ça finira...
En beauté ?
En beauté. Enfin, c'est pas vraiment une question beauté, mais tu Instagrammes beaucoup, tu fais beaucoup de Insta Stories.
Oh là là,
Et en fait, ce que j'adore, c'est que tu n'hésites pas à dire à tes followers ce que tu penses, surtout quand ils t'envoient des messages pas très sympathiques, quand tu soutiens une cause, ou c'est arrivé récemment, où tu as même... screenshoter leur message. Trucs, voilà. Et tout ça pour dire que t'as quand même pas mal. Il y a quand même des gens pas très sympas qui t'envoient des messages, des haters, comme on dit. Et je trouve que tu joues bien le jeu.
En fait, moi, sur Instagram Stories, il y a un truc que je trouve cool, c'est le contact, la proximité directe avec les followers. Donc, forcément, il y a moins de gens qui regardent par rapport aux lecteurs du site et tout. Mais ça permet de se parler un petit peu au quotidien et les filles peuvent me répondre. Mmh. Et du coup, je leur envoie des petits cœurs, des petits « c'est cool, bonne journée ». J'aime bien ça. Après, c'est sûr que comme je ne me limite pas qu'à la beauté, enfin, je parle de beauté tout le temps, mais dans mes stories, comme c'est spontané, j'ai quand même envie de parler d'autre chose parce que je ne suis pas un robot et je préfère être segmentante, en fait, que plaire à tout le monde. Parce que plaire à tout le monde, au final, c'est pas très valorisant, en réalité.
Exactement.
Moi, j'ai aucun problème à ce que des gens ne m'apprécient pas, sans même me connaître. Je trouve ça particulièrement étonnant, mais pourquoi pas ? J'ai aucun problème à ce que des gens ne m'apprécient pas, ne soient pas d'accord avec ce que je dis. C'est même intéressant, d'ailleurs, qu'on
échange.
Voilà. En revanche, ce que j'aime pas, c'est le manque de valeur, quoi. L'impolitesse, le fait d'être rude, de se faire insulter, c'est juste pas normal. Et j'ai à cœur d'instaurer une relation de bienveillance avec mes followers. Donc, parfois, effectivement, je montre que je reçois des trucs très limites, et parce que les filles n'ont pas conscience de ça. Et au moins, elles se disent « Ah oui, bah là, je ne vais peut-être pas lui dire, un truc que je n'aurais pas dit à quelqu'un dans la vraie vie, en fait. »
Voilà.
Et du coup, c'est bien. Après, encore une fois, ça plaît.
Mais t'as des messages très drôles, ouais, parfois.
Ah oui, non, mais après, quand on a des trolls, le principe même du troll, c'est de te pousser à bout. Ouais. Donc,
mais est-ce que c'est souvent les mêmes, en fait ? Ou non, c'est toujours différent ?
En fait, c'est marrant parce que j'ai été très exposée il y a quelques années. Et où là, c'était quotidien et ça a été du harcèlement. Il y a eu... les coordonnées de mes proches qui étaient publiées sur Internet. Enfin, je recevais des courriers. Il y a eu des choses très, très lourdes à gérer. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je montre pas ma vie privée et que je raconte juste des conneries et je m'en fous. Donc ça, c'était dur, mais pour moi aujourd'hui, quelques messages pas aimables, ça me fait sourire. Je pense que c'est parce que je me suis fait attaquer quand j'avais 20 ans. T'es pas blindée à 20 ans, donc je me suis blindée et que maintenant, maintenant ça glisse. Mmh. Et même si je sais que parfois j'aimerais avoir raison, je préfère ne pas argumenter. Quoi.
Pas rentrer.
Non, il y a un truc qui se dit sur internet, c'est « don't feed the troll ». Faut pas nourrir le troll.
Exactement. Il y a des haters, il y en aura toujours. Mais ils sont bien cachés derrière leurs écrans.
Mais partout, partout. Et je pense que c'est d'ailleurs un des trucs les plus dingues au sujet de babillage, parce que ça fait 10 ans que je fais ça. En plus, j'ai commencé, j'avais 19 ans, donc j'étais un bébé, je savais pas comment ça marchait. C'est que tu peux demander partout, dans le milieu professionnel et compagnie, il y a autant des gens qui m'aiment bien que des gens qui ne m'apprécient pas, même s'ils me connaissent pas, parce qu'ils ont un avis bien arrêté. Et je pense que c'est ça, babillage est segmentant. Et ça me va
très bien.
Tellement bien. Ça m'embêterait, en fait, que tout le monde m'aime. Il y aurait un truc caché, il y aurait un truc pas net. Là, au moins, c'est clair, et je suis droite dans mes bottes. Exactement. Et je suis qui je suis, et je mène pas de double jeu, quoi.
Ce que je disais au début du podcast.
Ouais, voilà, merci.
Eh bien, écoute, ça se termine comme ça.
Déjà ?
Tu vois, t'as plus peur, là.
Non, j'ai plus peur, on a parlé de mon épitaphe,
voilà.
on a parlé de tout. Oh là là.
On a pas parlé de garçon, par contre, mais bon.
Non, parce que ça, j'en parle pas.
Oui, c'est vrai.
Ouais,
en même temps, j'avais pas de questions dessus, c'est vrai.
Non, mais nous, on en parle dans notre vie privée, voilà. Quand Exactement. On se voit. Mais non, je parle pas de ma vie intime à mes lectrices, et elles ont d'ailleurs le respect de pas poser de questions.
C'est vrai.
Ça, c'est cool.
Puis en plus, c'est des podcasts beauté.
Voilà, hein. Donc hydratez-vous, lavez-vous et rentrez chez vous.
Alors, et on a réussi à le faire, ce podcast, parce que ça doit faire 2 semaines. Moi, j'ai eu un rhume entre-temps qui est un petit peu terminé, ça va mieux. Mais j'avais pas de voix la semaine dernière.
C'est ça.
Et je vais finir en te souhaitant de très belles fêtes de fin d'année, parce que Noël, c'est dans quelques jours. Profite bien de ta famille.
Tu sais ce qui m'arrive après Noël ? J'ai 30 ans.
Ah oui, pardon, oui. Mais t'as Noël et t'as ton anniversaire.
Donc,
tu vas bien fêter ça, en fait.
Je vais stresser. J'ai très peur.
Non, ça y est, je les ai passés.
Bon, écoute, ça
a été un petit chamboulement, mais...
Non, mais j'ai peur.
30 ans, c'est 30 ans.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, le 25, je fais la fête.
Voilà.
Et le 27 décembre, le jour de mes 30 ans, je pense que je déprime dans mon camp. Il n'y aura pas de stories le 27.
Eh bien, écoute, merci beaucoup.
Merci, Katia.
Et bah, vous pouvez suivre Babillage sur @babillage. C'est ça,
exactement, avec un S au bout.
Et ton blog, c'est
babillage.net.
Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.
Salut.
Hey, encore une fois, restez avec moi pour écouter les petites coulisses. Bon, ça va ?
Ben, ça va. Un petit peu stressée.
Non, faut pas. En plus, on est chez toi, on est bien.
Oui, c'est vrai. Il y a le chat pas loin.
Voilà. On est très bas. Hein. Petite bière.
Pour toi. Doups, tu vas t'en aller. Voilà.
Doups, c'est remonté sur la table. Et il ne nous quitte plus.
Voilà. Non, mais il faut que je sois coiffée. J'ai les cheveux.
11 minutes 20. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour la chanson ? On prend Maria Carré ?
Non.
Non ?
Non.
D'accord.
Je sais ce que je vais prendre.
Alors, bah, vas-y, dis-moi. Je laisse tourner pour l'instant. Hein.
Faut que je t'explique pourquoi elle me parle ou pas ?
Ouais.
Ok.
Alors, vas-y, dis-moi qu'est-ce que tu vas prendre ?
Alors, j'ai choisi la chanson que j'écoute le plus. J'ai regardé dans Spotify.
Écoute le plus. Alors, celle que tu écoutes le plus, je vais dire.
Oui. C'est « Pour que tu m'aimes encore » de Céline Dion.
Ah, bah oui. Tu sais que je l'adorais, cette chanson. Mes premières bombes, je les ai faites avec cette chanson.
En fait, je suis une fan inconditionnelle de Céline Dion.
Mais je savais que t'allais finir sur Céline Dion.
Mais
tu vois, Maria Carré, tout à l'heure, c'était pas ça.
Non, mais Maria Carré, c'est Noël. C'est bien en ce moment.
Oui, c'est en ce moment.
C'est bien un mois par an, mais 11 mois par an, c'est Céline Dion.
Bah, on peut dire que t'as hésité.
Ouais.
Et que pour finir...
Non, mais c'est Céline.
C'est Céline.
Moi, ouais. Céline... Enfin, on pourrait croire que je vais passer dans confession intime, mais Céline, elle m'accompagne dans ma vie. C'est magique.
Moi, je l'ai redécouverte, en fait. Je l'ai mise dans ma playlist et j'en écoute à fond le matin quand je vais au taf, quoi.
Moi, j'ai son
avec Maria Carré en ce moment.
Son premier vinyle est là. Il est très rare. Je suis très fière.
Et toi, je sais que t'es une fan de Céline Dion.
Ouais.
Pour le coup, beaucoup plus que moi, je pense. Bon, bah, vas-y, je coupe. Bon, alors, Céline Dion ou Maria Carré ?
On est au mois de décembre, c'est bientôt Noël. Moi, j'ai ma petite idée. Make my wish come true.